Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à chacun. Nous allons ouvrir une nouvelle page de notre Bible. Il s'agit du témoignage de l'apôtre Paul. Lorsqu'il s'est agi d'annoncer l'Évangile, à ces chrétiens païens, les chrétiens de Galate, et j'ai donné donc un titre à cette méditation, c'est un cœur déchiré. Alors voilà donc le texte de référence, donc Galates chapitre 4, verset 12, et puis quelques versets ensuite. L'apôtre Paul dira à ses amis de Galatie, « Soyez comme moi ». Car moi aussi, je suis comme vous. Il veut tout simplement expliquer qu'il n'est pas supérieur aux autres. Vous ne m'avez fait aucun tort, affirmera-t-il. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Il est mis à l'épreuve par ma chair, ma condition de santé par exemple. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi? En vous disant la vérité, le zèle qu'ils ont pour vous, c'est-à-dire les détracteurs de Paul, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » L'apôtre Paul, en écrivant ces lignes, fait état tout simplement des temps passés où les Galates ont reçu favorablement l'apôtre Paul, mais avec le temps, la relation s'est dégradée, et parce que Paul leur a dit certaines choses, ils se sont détournés de lui au profit de gens qui, quelque part, mal intentionnés, ont voulu créer une division dans cette église. Alors, un cœur déchiré, c'est tout simplement là le sujet que nous allons examiner et les souffrances de l'apôtre Paul par rapport à cette église à laquelle il avait tout donné de sa vie. Une étrange question posée aux chrétiens de Galatie par leur conducteur spirituel qui n'est autre que l'apôtre Paul, leur père spirituel. Et il dira ceci, « Suis-je devenu votre ennemi ?» Alors que l'Église représente une famille et une maison de paix, le terme fracassant que Paul utilise est le langage de la guerre et de l'inimitié. Et ce langage, c'est tout simplement, « ennemi », le mot « ennemi ». Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les choses se sont passées ainsi pour se détourner de cet homme qu'ils ont considéré à un moment donné et qu'ils ont rejeté ensuite et qui était finalement l'envoyé de Dieu pour leur donner leur salut, leur annoncer le message de Jésus-Christ du salut. La question qui peut se poser maintenant, c'est comment des frères en la foi, des amis en Jésus-Christ que nous avons découverts alors que nous ne nous connaissions pas auparavant, peuvent-ils devenir ennemis et particulièrement du pasteur, de l'Église, des responsables, de l'Église. Ce paragraphe pathétique répond à ces questions. Nous sommes en face d'un plaidoyer plein d'affection, d'un serviteur de Dieu, je rappelle, c'est Paul, qui tente de ramener ou de regagner le cœur, à défaut de la raison, des membres de cette Église de Galatie, c'est-à-dire des brebis qui se sont égarées, et par trop souvent, qui ont eu tendance à écouter le chant des sirènes et séduites et se sont perdues dans toutes sortes de doctrines au mépris finalement et bien des personnes. C'est bien un travail pastoral dont on attend d'un berger. L'apôtre Paul, pour se mettre à la dimension de ses lecteurs de sa lettre, il dira « Mais soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. » Voulant dire, je ne suis pas supérieur eh bien, à quiconque. Et il parle d'une manière tellement animée, plein d'affection, il dira « Mais je vous en supplie. » Alors, naturellement, eh bien, on va commenter la suite. Ou autrement dit, « Je vous en supplie, redevenez libre comme je le suis. » Et je pense que Paul avait discerné que les chrétiens de cette église avaient perdu leur liberté en pensant eh bien, devenir libre. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrira aux Philippiens, il dira « Mais Dieu vous a donné la liberté et ne faites pas de la liberté finalement un prétexte pour vivre selon la chair, mais ne vous mettez pas tout à nouveau sous un joug eh bien, étranger. » Et c'est ce qui se passait. Et c'est la catastrophe de cette église qui était revenue finalement à des rudiments religieux, à des traditions, à toutes sortes de choses qui n'avaient plus rien à voir avec le message de libération, le message de liberté qui est en Jésus-Christ, ce que Paul leur avait annoncé au départ. Donc, de redevenir libre comme je le suis moi-même. Ne suis-je pas moi-même, me suis-je pas moi-même rendu semblable à vous ? Paul rappelle l'effort constant qui a été le sien pour se faire tout à tous. Il l'écrira, il le dira et nous le répète à travers eh bien, ces mots, différents certes, mais dans cette lettre qu'il envoie aux Galates. « Je me suis fait tout à tous, sans être complaisant, ni démagogue en d'autres termes. Mettez-vous à ma place et essayez de me comprendre, car vos intérêts spirituels sont aussi les miens. » Il y a là naturellement eh bien, un esprit d'unité et ça doit être la même chose entre eh bien, un conducteur spirituel, un pasteur, disons-le, et puis le peuple, en effet, le peuple de chrétiens. Paul était juif, nous le savons, et il a dû faire des efforts inouïs pour comprendre et offrir le salut à des païens, ce qui ne devait pas être certainement facile. Il serait peut-être pu trouver dans son élément s'il avait prêché à des juifs. Le problème numéro un de l'Église, et je pense que c'est encore à constater encore aujourd'hui, c'est que chacun ne cherche pas et ne fait pas forcément beaucoup d'efforts à comprendre ce qu'est, eh bien là, un frère, une sœur, un chrétien comme lui dans l'Église. À travers les différences de génération, c'est pas toujours très simple, les origines des uns et des autres, la mentalité, la culture, la façon d'éducation qui a été reçue par les uns et par les autres, ce qui donne trop souvent eh bien, cette expression que nous pouvons quelquefois regretter, mais que nous entendons, eh bien, je fais ce que je veux, je fais comme il me plaît, je suis comme ça, je crois, et tant pis pour les autres. Donc nous voyons que là, cet état d'esprit, au départ, était une formidable union d'esprit, de cœur, de sentiment. Mais à la fin, lorsque Paul est forcé de leur écrire cette épître pour leur dire « Mais vous avez parcouru un chemin, mais qui n'est pas un bon chemin, vous êtes trompé, vous êtes dans une voie fausse. » Cependant, Paul s'empresse de dire « Vous ne m'avez fait aucun tort. » Sans grief personnel contre ces chrétiens auxquels il s'adresse, sinon une grande souffrance dans son cœur, c'est le tort dont il s'agit. Il s'applique à une douleur, voire même une torture morale et spirituelle, dont toute l'Église en est la victime. Parce que lorsqu'il y a un poison qui s'infiltre, lorsqu'il y a des saboteurs d'unité qui, eh bien là, font leur œuvre, là, en semant de livrets un petit peu partout, c'est toute l'Église qui va en souffrir. Elle va perdre sa force, elle va perdre sa dynamique d'esprit, elle va perdre sa vision, elle va perdre son enthousiasme à la louange, à l'adoration, au service et toutes sortes de choses. Et ça, c'est le corps de Christ qui souffre. Alors, il y a un retour en arrière, un manque notoire de maturité spirituelle, un refus de vérité, et ça c'est véritablement le diagnostic que Paul est en train de faire. et c'est une situation qui est grave. C'est une sorte de superficialité relationnelle, un manque de considération de l'autre ou des autres. Paul fait un appel et il provoque pour essayer de tenter de faire réfléchir les Galates. Donc il fait un appel au souvenir cher à son cœur. Le verset 13 nous dit cette parole: « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. » Autrefois, les Galates avaient su reconnaître dans l'homme qui est Paul un homme faible et malade, un envoyé de Dieu, et c'est à cause de sa faiblesse extrême, compensée par la puissance de la parole et de l'action du Saint-Esprit, qu'il s'était converti. C'est dans la faiblesse que réside la force. Et Paul l'écrira dans les Corinthiens en disant « C'est quand je suis faible que je suis fort. » Alors c'est peut-être une leçon pour tous les prédicateurs, pour les anciens, pour tous ceux qui sont investis d'une responsabilité dans le corps de Christ, que c'est pas forcément de se sentir en pleine capacité, fort, en bonne santé, qui fait que nous allons avoir du succès. C'est quelquefois le contraire, c'est lorsque nous sommes vidés de nos forces, vidés de nous-mêmes, que le Dieu va agir et venir à notre secours pour nous donner l'action et la puissance du Saint-Esprit. Retenu par une quelconque et grave infirmité, les théologiens pensent que c'était un problème au niveau visuel, un problème de vue, il en parlera d'ailleurs Paul. Les Galates avaient cru l'apôtre et son message, comme nous pouvons le lire à travers une traduction moderne dans notre Bible, où il est question de cette parole, et je traduis parce que c'est intéressant de comprendre un petit peu avec notre langage d'aujourd'hui, il dira ceci: « Vous rappelez-vous notre première rencontre, ce fut par suite d'une maladie, que je m'arrêtais chez vous et que je vous annonçais l'Évangile. » Et c'est là où nous pensons qu'il pouvait y avoir un problème au niveau de ses yeux. « Vous auriez pu, si vous aviez pu, vous étiez tenté de me repousser et de mépriser l'homme faible et infirme que j'étais. Mais vous ne m'avez témoigné ni dédain, ni répugnance. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu et ou comme si, vous auriez accueilli Jésus-Christ en personne. » C'est probablement les larmes aux yeux que Paul est obligé de leur écrire ceci. « Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité ?» Alors il y avait deux choses. Au début, il y avait naturellement sa maladie. Les Galates avaient été pris de compassion pour lui. Ils avaient écouté son message. Il s'était converti. Mais les temps passant, à travers des fausses doctrines, à travers un retour en arrière, il dira « Mais suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité ?» L'apôtre Paul a dit la vérité, il a tout simplement annoncé le message de l'Évangile qui nécessite finalement que chaque homme, chaque femme qui écoute l'Évangile se repente, se convertisse, accepte Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et ça, c'est la vérité. Mais à un moment donné, la parole était si forte et si impressive qu'ils se sont détournés. Et comme la marche de l'Évangile, c'est la foi et non la loi, à ce moment-là, cela a fait peur à ces chrétiens de Galatie. Et ils se sont dit, nous retournons vers la loi. Nous retournons vers la loi de Moïse, nous retournons là, vers tout ce que nous connaissons, toutes ces traditions religieuses. Je vous ai dit la vérité, parce qu'il est nécessaire, parce qu'il était nécessaire pour vous, que vous puissiez rentrer dans cette dimension de la foi et de sortir de la loi. Alors, quelles sont les raisons de ce changement si radical? J'ai donné déjà quelques éléments. Est-ce que la vérité d'hier, qui nous a amenés à nous convertir à Dieu, serait aujourd'hui devenue insupportable chez certains chrétiens et ferait de nous des rebelles et des méchants? Parce que quand on parle de cette manière, il y a quand même des mots qui expriment l'idée de la méchanceté de la rébellion. Paul se souvient de la joie débordante, c'est ce que nous avons lu des Galates, leur amour fraternel sans réserve. Et cet amour fraternel sans réserve est décrit de cette manière, au verset tout simplement 15, « Où donc est l'expression de votre bonheur, du début, car je vous atteste que, si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Là, nous avons une preuve qu'il devait y avoir certainement un problème de vue chez Paul, et que là, pris de compassion, eh bien, ils auraient fait n'importe quoi pour aider Paul. Mais tout cela, eh bien, n'a eu qu'un temps, tout simplement. Qu'est devenu notre insouciance, nous dit également un autre texte qui explicite, peut-être avec un langage moderne. Eh bien, car je l'atteste, si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Serais-je devenu aujourd'hui votre ennemi pour avoir été sincère envers vous et vous avoir dit la vérité? Ça revient à ce que nous avons lu, eh bien, il y a un instant, tout simplement. Nous voyons que ils étaient devenus, tout simplement, eh bien, étrangers à l'apôtre Paul dans sa personne, mais aussi à sa parole. Mais ça, c'était hier. Maintenant, il est bien obligé de constater qu'il n'a pas réussi sa mission. Ou plutôt que le Seigneur n'a pu atteindre le but de les conduire à l'épanouissement dans la foi et à sortir de la loi. Les chrétiens de Galatie sont restés fragiles. Ils n'ont pas grandi, ce sont des enfants spirituels, capricieux, versatiles. Leur croissance a été brutalement stoppée. Or, un des symptômes du mal dont ils sont atteints et qui n'échappe pas à Paul, c'est cette tristesse évidente quand il les interpelle ainsi. Où donc est l'expression de votre bonheur? Ils étaient devenus sombres, tristes, méfiants. Sans l'élan, leur élan a été coupé. Dans cette même épître, on ressent tout le désespoir de l'apôtre quand il écrit, eh bien, tout simplement, au verset 7, chapitre 5, verset 7, chapitre 5, je voudrais quand même donner quelques éléments. Il aurait dit ceci, « Vous courriez bien, vous êtes bien parti, vous étiez plein d'enthousiasme au départ. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence, il va ajouter pour expliquer, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera tout simplement, eh bien, la peine. Voilà ce qu'il dit. Alors nous avons également, eh bien, un autre passage, parce que je voudrais nourrir un peu cette méditation pour savoir ce qui s'est passé également. Eh bien, au chapitre 3 et au verset 1er, il proclamera plutôt, avec une grande tristesse, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» C'est lui qui leur a annoncé l'Évangile. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Et après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir tout simplement par la chair? » Voilà la question qui, eh bien, est posée. Toutefois, une question encore mystérieuse qui subsiste, et Paul voudrait savoir finalement, eh bien, les tenants et les aboutissements, les origines, la racine de ce détournement en quelque sorte. Qui vous a tout simplement fasciné? Qui, eh bien, là est l'auteur. Qui vous a arrêté? Qui vous a détourné? L'apôtre Paul, auprès de quiconque, n'a jamais voulu dominer, mais il découvre avec stupeur que ses croyants ont laissé l'orgueil, la méchanceté, le mépris s'emparer de leur cœur. Ils sont devenus tout simplement aigres, amers et pleins de critiques. Et nous pouvons dire que on peut ajouter exactement quelques adjectifs les caractérisant. Hein, vous êtes devenus sarcastiques, vous êtes devenus moqueurs. Donc ils s'opposaient à l'apôtre Paul. Et ils deviennent des insoumis à Dieu par voie de conséquence, rebelles à sa parole. Ils jugent sévèrement et surtout ils sont prêts, eh bien là, à suivre n'importe qui d'autre que Paul, plutôt que, en effet, de reconnaître dans leur père spirituel celui qui leur veut du bien, devenu par conséquent incapable d'apprécier le bien et le mal, le vrai et le faux. La confusion est telle qu'ils sont devenus non pas plus heureux, mais plus malheureux. Et leur bonheur a disparu, envolé. Les chrétiens sont dépités, ces chrétiens sont dépités. Leur liberté s'est changée en esclavage, l'esclavage de la loi. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Hein, tu ne, voilà, plein d'interdits. Or, la vérité qu'ils entendent à cette heure les horripile. Nous pouvons dire que ça les énerve, ça les agache, ça les démange. Et Paul, en leur disant toutes ces choses, en leur faisant le diagnostic du docteur, en quelque sorte, du médecin, pour leur dire voilà où est votre maladie, pourquoi vous avez perdu votre enthousiasme du début, pourquoi vous n'êtes plus ce que vous étiez ce que lorsque vous avez découvert Jésus. Alors, Paul, en leur disant, devient, en quelque sorte, le bouc, leur bouc émissaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est advenu de cette belle relation qu'ils avaient au départ et qu'aujourd'hui, eh bien, tourne un petit peu, là, on pourrait peut-être dire aujourd'hui, eh bien, au vinaigre. En fait, la vérité d'un mauvais choix, d'une grave erreur d'appréciation, d'une funeste illusion, et à la recherche d'un plus grand bonheur sans sagesse. Je dis bien un plus grand bonheur sans sagesse. Le seul bonheur qui vaille, le seul bonheur qui peut nous donner l'harmonie dans notre vie, qui peut nous donner l'équilibre dans notre vie, dans nos pensées, dans notre conscience, nous donner la paix, eh bien c'est véritablement la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole de Dieu. Les Galates sont devenus dépendants, pour ne pas dire esclaves, captifs, de ce qui les a séduits. Et au verset 17, « Croyez-moi, en parlant de ceux qui les ont détournés, de ceux qui sont des faux prophètes, des faux docteurs qui annoncent un contre-évangile, alors il dira, mais ces gens-là s'empressent autour de vous. Ils vous témoignent beaucoup d'intérêt, mais leurs intentions ne sont pas pures. Ils veulent gagner votre faveur pour vous détacher de moi, pour vous détacher de nous. Ils cherchent à vous soustraire à notre influence pour que vous vous attachiez à eux. Ils veulent en somme tirer profit du zèle qu'ils vous inspirent. » Les faux docteurs, les faux prophètes, sans les nommer ou sans se dévoiler comme tels, que cherchent-ils exactement et que cachent ces mots exactement? La séduction, la manipulation, l'enchantement, l'entraînement pour autant un déploiement de psychisme. Ce n'est plus du spirituel, mais c'est de l'émotion, c'est du sentimentalisme. C'est du psychisme, mais en rien, la vérité est une saine spiritualité. Alors on comprend que la vérité arrive, que quand elle se produit, par l'élève de Paul, comme elles interviennent dans le cœur, dans la conscience des Galates, elles viennent comme un boulet de canon qui effondre un édifice de papier. Ainsi, en réaction attristée, l'apôtre d'affirmer « Suis-je devenu votre ennemi ?» en vous disant la vérité. Ah oui, c'est un travail que dans une église, le pasteur, le berger, les prédicateurs, des hommes de compétence, des hommes qui aiment Jésus, qui aiment la parole de Jésus, qui aiment la transmettre, eh bien, aux véritables chrétiens. Cette parole de vérité, quelquefois, passe très très mal parce qu'elle nous remet en cause sur le chemin que nous aurions dû suivre, sur le chemin que les Galates auraient dû suivre, mais qui quelque part, eh bien maintenant, se tourne tout simplement eh bien, en voie de traverse, en chemin de traverse et en voie sans issue. La charité ou l'amour de Dieu est inséparable de la vérité, car quiconque est, refuse d'entendre, ne veut pas écouter la vérité, doit bien penser que cette haine du vrai remonte jusqu'à Dieu lui-même. En conclusion, j'aimerais simplement ajouter ceci, que le refus de la vérité, quand elle nous bouscule, quand elle nous remet en cause, quand elle nous ramène peut-être en arrière sur un chemin que nous aurions dû suivre et que nous n'avons pas suivi, parce que nous avons été séduits par une fausse doctrine, par notre propre corruption, par des tentations devant lesquelles nous avons abdiqué et toutes sortes de choses, eh bien c'est ça, cette vérité qui nous est dite, ça dépend dans quelle forme nous disons les choses, et il faut les dire avec le tact que nous donne le Saint-Esprit, avec bienveillance, voire avec compassion peut-être pour celui qui a chuté malencontreusement, non pas en effet eh bien là en le pendant haut et court et en le condamnant sans jugement, mais quand c'est fait avec amour, Quand c'est fait dans la vérité, quand c'est fait avec le tact nécessaire, eh bien, ça porte ses fruits. Donc, le refus de la vérité, quand elle nous chamboule, eh bien, elle nous dérange et elle nous met dans un malaise. Et n'est-ce pas un manque de maturité spirituelle ? Alors, on a des cas comme ça hein, dans la Bible qui sont repris. Moi, je pense particulièrement à David lorsqu'il va chuter avec Bathsheba. Et puis, il y en a d'autres, beaucoup comme ça. Hein. Ceux qui nous disent la vérité ne sont pas nos ennemis. C'est ça, justement, alors qu'il soit pasteur, mais qu'il soit tout simplement un simple chrétien qui nous reprend en disant, voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, hein, on va prier pour toi pour que tu remontes et tout ça. Mais si on se bute, si on s'entête, si véritablement, eh bien, on va prendre en grippe ou en haine avec peut-être le rejet de ce que nous avons entendu de la personne qui nous l'a dit, alors à ce moment-là, ça ne peut pas aller très loin. On ne peut pas aller très loin. Donc, nos frères qui nous reprennent, eh bien, au contraire, ne sont pas finalement nos ennemis. Et nous voyons que c'est plutôt un signe contraire qu'ils nous aiment vraiment pour ne pas nous voir être emportés par les flots dans le mal, dans toutes sortes de dépravations, toutes sortes de choses. Alors nous avons besoin de le comprendre, de l'entendre, de nous placer devant le Seigneur, nécessairement de nous repentir parce que ce sont des choses qui sont vraies et de surtout de l'accepter. Alors, je voudrais simplement par un texte où il est dit ceci. « Si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, en lui disant naturellement, eh bien, non pas des histoires, et pour l'endormir, ou tout simplement pour le culpabiliser à mort, hein, les deux cas peuvent se présenter, eh bien qu'il sache que celui qui ramènera un homme qui s'égare, on pourrait dire peut-être dans le langage biblique un pécheur, de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort. C'est pas n'importe quoi, c'est pas une petite affaire. Et c'est ce que Paul faisait, là, auprès de ses amis de Galate. Il leur disait la vérité, et en leur disant la vérité, alors à ce moment-là, il s'était fait une fausse religion avec le légalisme, avec le fondamentalisme, avec cette manière-là religieuse, eh bien, de servir Dieu ou d'entendre plaire à Dieu, alors que quelque part, eh bien, c'est tout à fait le contraire. Et on pourrait peut-être dire, alors à ce moment-là, tout simplement à la chute de ce verset, on pourrait dire « Le mensonge tue et la vérité fait vivre ». Alors que le Seigneur nous aide. Et c'est peut-être un encouragement pour tous les pasteurs, pour tous les prédicateurs, pour tous ceux, quelle que soit leur position, hein, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, c'est qui est plus grand ou plus spirituel que l'autre, hein, c'est ce que Paul dira à un moment donné, « Je suis comme vous et vous êtes comme moi, il n'y a pas de problème hein. ». Mais alors, à ce moment-là, eh bien, même dans la bouche d'un simple chrétien, le plus modeste qui soit, et qui reprend son frère avec tact, avec amour, et de lui dire, écoute, tu es parti là, dans le fossé. Alors à ce moment-là, c'est une parole de vérité qui vient de Dieu et nous avons besoin de le retenir et de changer. Donc, je m'adresse à tous ceux qui ont des responsabilités, qui ont une conscience pure et qui reprennent quelqu'un qui est en train de, de batifoler un peu de droite et de gauche. Un berger consciencieux, nous pourrions dire. Alors à ce moment-là, eh bien, moi je pense que il est l'agent de Dieu pour nous ramener dans le droit chemin. Et c'était le problème des Galates qui, par-delà, eh bien, certainement leur mésentente, leur aigreur, leur amertume, leur dissension entre eux, plus naturellement, et entretenue par une fausse doctrine qu'ils avaient entendue après avoir entendu la première vérité qui était donnée par Paul. Quand Paul est revenu les voir, il leur a dit « Mais moi, je ne vous ai pas annoncé ça. » Et en raison de ça, eh bien, vous êtes tombé dans quelque chose, dans une ornière. Et aujourd'hui, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes pauvre. Plus personne, finalement, eh bien là, connaît l'enthousiasme du Seigneur, la joie du Seigneur, la paix du Seigneur. Alors moi, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a quelque chose, vous avez rejeté la vérité. Vous avez mis dehors le Saint-Esprit de Dieu qui voudrait vous convaincre. Et moi, je vous dis la vérité. En raison de ce que je vous dis la vérité, eh bien, vous êtes devenu où nous sommes devenus votre ennemi. Au contraire, nous restons, eh bien, là, votre ami. Alors que le Seigneur encourage tous ceux qui servent, tous ceux qui sont peut-être partis dans une mauvaise direction, eh bien, là, à écouter et à recevoir la parole de Dieu, parce que je vous ai parlé de David tout à l'heure. Quand David est parti, là, dans les décors avec son adultère et le meurtre d'Uri, eh bien, il n'a pas voulu entendre eh bien, ce qui lui a été dit, parce que tout le palais du roi David, eh bien là, tout le monde savait qu'il avait chuté. Mais pendant un an à peu près, eh bien, David, là, eh bien, a voulu maintenir cette situation sans confesser sa faute. Il a fallu qu'un prophète, le prophète Nathan, si je me souviens bien, vienne lui dire en disant, bien, tu es cet homme-là. Et là, à ce moment-là, tout simplement David, eh bien, s'est reconnu coupable et il a demandé pardon. Et je crois que gardons-nous de tomber dans toutes sortes d'erreurs. Il y a des faiblesses dans la chair humaine, c'est tout à fait normal et le Seigneur le sait. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est lui qui peut nous garder debout. Alors que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et s'il entend eh bien, une parole de vérité pour le ramener à la vie, eh bien qu'il l'écoute, qu'il l'entende et qu'il laisse faire l'Esprit de Dieu le changer et le transformer. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre méditation. À bientôt.